Bonjour.
J'allais dire quel super générique.
Ça te fait toujours marrer. Ouais.
Ça te fait rebond le Big Tasty.
La référence ultime. Bonjour et bienvenue sur Comics Weekly, épisode numéro 5. Je suis Steve.
Et moi, je suis toujours Mister René Bunny.
Et donc, ce sont les sorties de la semaine 24, je crois. 24. Sorties donc du 16 juin. On a une double review chez Marvel avec l'arrivée d'un nouveau titre. On a du DC. Oh,
pas vraiment un nouveau titre, en fait.
Oui. Un pseudo nouveau titre, on va dire.
Un pseudo nouveau titre, oui.
Voilà, c'est une des critiques, on en reparlera tout à l'heure. Donc, on a du DC, on a encore aussi un peu de Marvel, et on a du Image, pour la première fois dans Comics Weekly.
Pour la première fois, c'est vrai.
Voilà. Et on va pas perdre trop de temps, on va essayer de faire une émission un peu plus courte que la semaine dernière, qui avait un petit peu débordé, et donc on va attaquer tout de suite les news. On commence sur une note un petit peu triste, c'est la mort d'Al Williamson, qui est survenue le 12 juin. Al Williamson, qui a été un encreur qui a eu une carrière extrêmement longue. Il a été nommé 7 fois quand même au Eisner Award, mm-hmm. Il en a gagné 3. Une fois en 91 pour meilleur encreur sur Atomic Age, qui était sorti chez Epic, donc un label de Marvel à l'époque. Une autre fois en 97, où il avait gagné l'encreur pour Amazing Spider-Man et Untold Tales of Spider-Man numéro 17 et numéro 18. Et enfin en 2000, où il avait atteint le Hall of Fame des Eisner Awards, justement, par le vote du public.
D'accord, ok. Ce qui est assez rare d'ailleurs, pour finalement, on parle assez peu des encreurs, quoi.
Oui, c'est vrai, oui. Il y a pire encore, hein. Y a les lettreurs qui sont les plus souvent oublié, mais c'est vrai que généralement quand on parle d'un dessinateur, on parle vraiment que de celui qui fait des dessins et beaucoup plus rarement de l'encreur.
Oui, on les oublie beaucoup plus. Mais c'est vrai que ce nom-là revenait souvent.
Ah oui, Williamson.
Il en a ancré, il en a mis des tartines, hein, c'est le cas de le dire. Il en a fait des tartines durant toute sa carrière. Et c'est un nom qu'on n'oubliera pas, hein, celui-là.
C'était un très très bon encreur, effectivement. Ouais. Donc voilà, encore un qui part. Ça commence à faire beaucoup là. Dick Giordano, Frank Frazetta et puis Al Williamson là en l'espace de quoi un mois à peine. Ça y va quoi. Donc bon, on va peut-être essayer de remonter un petit peu la joie.
Ah oui.
On va passer à certaines news Marvel. Une rumeur pour Amazing Spider-Man.
Ouais, une rumeur pour Amazing Spider-Man, c'est Rich Johnson, encore lui.
Oui,
on en parlait la semaine dernière.
Voilà. Je m'excuse, la semaine dernière, j'avais dit que c'était l'éditeur en chef d'IGN et je me suis trompé, c'est Rich George qui est l'éditeur en chef d'IGN Comics. Et en fait, Rich Johnson travaille sur CBR, il a une colonne, une ancienne colonne qui s'appelait Lying in the Gutters. Et maintenant, il fait un nouveau colonne sur un blog dont j'ai oublié le nom, Breaking quelque chose. Donc voilà, donc c'est un journaliste anglais qui s'intéresse principalement à tout ce qui est rumeur, etc. Voilà.
Et il nous annonce, il lance la rumeur que Amazing Spider-Man pourrait ne plus sortir que 2 fois par mois et non plus 3, mais surtout que Dan Slott pourrait être le scénariste unique de la série. Donc à partir de quand, on ne sait pas, mais ce serait pour bientôt.
Finalement, la formule Brand New Day, donc 3 Amazing Spider-Man par mois, a fait son temps, apparemment. Et exit le pool de scénaristes.
Au fait, apparemment, ouais, voilà, ils espéraient sans doute vendre plus que ce que vend Amazing au numéro unique à présent, quoi. Donc, c'est vrai que c'est en chute quand même depuis pas mal de temps maintenant.
Faut dire aussi que le problème qui se pose actuellement avec Amazing Spider-Man, c'est que on nous a vendu Amazing Spider-Man en disant il y aura que 3 Amazing Spider-Man par mois. Point. Sauf que depuis maintenant quelques mois, on a aussi Web of Spider-Man qui sort.
Non, puis surtout c'est du grand n'importe quoi. Il y a des mois avec 5 titres, enfin 5 Amazing qui sortent. Et cette semaine, il y en a eu 2.
Bah oui, cette semaine, il y en a eu 2 d'ailleurs. C'est bien un problème. Et puis on a aussi énormément de mini-séries en ce moment, ça n'arrête pas, donc ce qui fait que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de Spider-Man, et je pense que les gens décrochent déjà, peut-être de par la qualité, bon ça c'est un autre problème, mais aussi de par la quantité, ils peuvent pas donner de la tête partout.
Donc. Ouais, et puis le pool tournant comme ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux d'un point de vue continuité, il y a toujours des petits soucis. Donc effectivement peut-être qu'avec un nouveau un scénariste unique ça ressemblera peut-être plus à quelque chose de normal on va dire.
Bah c'est vrai par contre ça pose un problème, c'est ça, c'est que quand il y en a un qui met en place quelque chose à la fin de son arc, il faut attendre qu'il revienne sur le titre pour continuer cette idée-là. Ce qui peut donc être de 2, 3, 4 mois après. Et
On va en
donc,
parler
en
d'ailleurs.
termes de numéros, ça fait 10, 12 épisodes.
Le parfait exemple, je pourrais le donner tout à l'heure sur la review de Amazing Spider-Man 634. Par contre, sur le fait que ce soit Dan Slott comme scénariste unique, moi perso, je suis pas un grand grand fan de son Spider-Man.
On verra
voilà.
bien.
On verra bien.
Deux mini sur Thor en septembre.
Ouais, deux mini sur Thor en septembre avec Thor First Thunder par Brian GL Glass et Tan Heng Uat au dessin. Alors, je ne
Putain, je
connais
ne
ni.
connais absolument personne.
Voilà. Bon, alors, en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que First Thunder, ça reviendra sur les origines du personnage, vu que le film arrive dans quelques temps, etc. Donc, c'est un personnage dont on va avoir moult mini-séries, hein,
Ils
n'en pas
sont
douter.
malins chez Marvel quand
Ah
même.
oui. C'est toujours pareil. Et il y aura aussi Thor, For Asgard, par Robert Roddy au scénario et Simone Bianchi au dessin.
Ok, enfin quelqu'un que je connais, parce que même
Voilà.
le scénariste, là, je le connais pas.
Non, Robert Roddy, je ne connais pas du tout, mais Simone Bianchi sur du Thor, bah, ça peut être sympa,
Et puis vu que
intéressant.
c'est une mini, il a peut-être le temps de s'y prendre à l'avance et il y aura moins de problèmes de délai. Ou en tout cas, ce sera
Exactement.
moins grave.
Oui, Simone Bianchi qui est bien un homme. Hein. C'est pas. Il y en a qui pensent toujours que c'est une femme.
Ouais,
C'est pas
mais...
Simone, quoi.
Non, non, c'est un Italien, donc...
Voilà. Et
Pour
puis,
terminer sur Marvel, voilà le teaser Shadowland,
bah
un
alors,
11e teaser Shadowland.
le 11e teaser Shadowland, on ne les compte plus. Donc, bah là, on voit carrément Daredevil, ou en tout cas, ce qui semble être Daredevil, en train d'exécuter Bullseye.
Avec un Sai façon Elektra.
Façon Elektra, ouais, ça mimique un petit peu la couverture bien connue du Daredevil par Frank Miller où on voyait Bullseye tuer Elektra avec un Sai.
Numéro 181 de mémoire.
Ah bah très bien.
De mémoire.
Respect. Non.
Je peux me
Donc
tromper, mais je pense pas.
bon, à vérifier. Donc un no prize pour celui qui sera.
Ouais, c'est bon, je
Dans
l'ai
tous les
gagné.
cas, bon bah voilà, c'est Daredevil, pardon, qui a l'air de devenir de plus en plus, enfin de sombrer de plus en plus du côté obscur, quoi.
Bon, moi, je sais pas, ça me donne envie, franchement, ça me donne toujours envie. J'ai vraiment hâte que ça commence. Là, ça commence en juillet, je crois. Et aucun doute que le premier fera l'objet d'une double review, et peut-être même les autres d'ailleurs.
Alors il y aura du Billy Tan hein, au dessin.
Pas grave, m'en fous.
D'accord.
C'est
Non
vraiment
mais
le scénario qui m'attend.
enfin
Bon,
moi
en même...
perso je déteste
Oui,
pas
non,
hein,
moi non
Billy
plus,
Tan.
je déteste pas, mais je veux dire, ça pourrait être presque n'importe qui, ça pourrait même être notre grand
Kid
ami
Bacalo.
de X-Factor, Larry Stroman, que le scénario m'a l'air tellement intéressant que j'ai vraiment envie de le lire.
D'accord.
Enfin bon, j'espère pas qu'il viendra nous faire un petit tie-in, hein, quand même.
Ah bah c'est trop tard maintenant que
Non
tu
mais
l'as souhaité.
quitte à choisir, voilà, mais bon,
Il y a
dans le
tellement de
doute.
tie-in que c'est pas impossible que Strowman se retrouve sur l'un d'entre eux en plus. Parce que là, il y en a, on les avait cités, il y en a au moins une dizaine de
Ouais,
tie-in
il y en a
sur
beaucoup, ouais.
Shadowland.
Entre les one-shot et les mini, ouais, ça fait beaucoup, ouais. Ok,
On passe à DC?
on va passer au bloc d'essai. Tout d'abord, un clip de Blue Beetle, en tout cas de la transformation de Blue Beetle. Avec juste quelques images, je mettrai le lien sur l'article où on peut voir les différentes images, a été annoncé par Geoff Johns et le clip total, enfin le clip complet sera diffusé pendant la Comic Con de San Diego cet été. Ça a l'air plutôt bien fait. Alors apparemment c'est pas pour, il n'y a pas de truc prévu pour le moment vraiment avec ça, mais ça peut peut-être donner des idées. On voit en fait, c'est alors déjà le Blue Beetle, c'est Jamie Reyes le dernier, c'est celui qui a le scarabée dans le dos qui se transforme en armure. Pas tête corde ni
Oui, c'est le celui de.
voilà, bah le récent quoi, le dernier,
Oui, Infinite Crisis, quoi, enfin,
voilà
à partir
celui
de là.
qu'on a vu dans les Teen Titans, voilà c'est
Celui
ça,
qui ressemble un peu à un Bioman, un truc japonais, quoi.
voilà exactement. Donc on voit toute sa transformation puis on voit s'envoler, et franchement vu les photos ça a l'air vraiment vraiment bien foutu. Donc vivement la Comic Con pour voir le clip au complet, et qui sait, peut-être que ça va donner des idées pour une future série télé, un film, j'en sais rien, mais voilà, ça peut être intéressant en tout cas.
D'accord.
Tu avais pas vu les images?
Ah, du tout, du tout, du tout. Donc
D'accord.
j'ai hâte que tu me montres ça si.
Deuxième et dernière news DC et dernière news tout court. Un nouveau Aqualad va débarquer dans l'univers DC dans Brightest Day numéro 10. Donc on savait déjà depuis quelques semaines qu'il allait avoir un nouveau Aqualad. Là aujourd'hui, on a appris, enfin aujourd'hui, il y a un ou deux jours, on a appris un petit peu plus de choses sur lui. Donc son nom, ce sera Jackson Hyde. C'est un black avec des locks, qui a des tatouages un petit peu partout, qui est un étudiant moyen avec une copine avec qui il est avec elle, et puis ils sont plus ensemble, et puis ils sont de nouveau ensemble, etc. Donc vraiment l'adolescent, on va dire classique, quoi. Américain classique en tout cas. Il vit à New Mexico.
D'accord.
Il a été adopté et ses parents veulent pas trop qu'il s'approche de l'eau parce que bah, ses vrais parents pourraient le retrouver. Mais donc ils ont essayé de déguiser ça. Lui s'est bien rendu compte qu'au contact de l'eau il se passait des choses étranges. Et
À chaque fois qu'il prenait une douche, son bain, etc. À
Ouais.
force, il s'est dit, putain, c'est bizarre.
Ouais, peut-être, ouais. Apparemment, si j'ai bien compris, une histoire de tatouage qui bouge, enfin bon.
D'accord.
Qu'il avait des pouvoirs aussi, enfin, bref.
Et pour les non-initiés, Aqualad, c'est le fils.
C'était en fait le sidekick d'Aquaman dans les années 60 et qui a été tué par Black Manta, de mémoire.
D'accord.
Mais
Donc
il y a
celui-là, a
très longtemps.
priori, n'a aucun rapport.
Non, il était revenu, enfin, ce Aqualad, le premier Aqualad, était revenu en tant que Black Lantern,
D'accord.
mais il n'était pas ressuscité à la suite de Brightest Day.
Ok, ouais.
Donc apparemment, il ferait partie d'une histoire assez majeure dans Brightest Day qui a des liens avec Aquaman et Mera. On en saura plus. Et chose importante, le personnage est pourtant pas encore arrivé, mais on sait déjà qu'il sera dans le nouveau dessin animé régulier à partir de septembre, qui s'appellera Young Justice et qui devrait être diffusé, je crois, sur Cartoon Network.
Ok.
Donc un peu comme ils ont imposé un petit peu Blue Beetle à l'époque dans les dessins animés pour faire prendre un petit peu plus la sauce, ben là aussi ils nous imposent le personnage. Alors, on verra si ça marche ou si ça marche pas, mais voilà, au moins ils essayent des trucs. C'est plutôt pas mal. Je sais pas si tu avais vu des images du personnage un petit peu.
Du nouveau Aqualad?
Ouais.
Ouais, si, j'ai vu la couverture du numéro 10
Ouais, bon bah.
de Brightest Day. De toute façon, Brightest Day, dont on reparlera très vite.
Oui, bah oui. Sûrement, c'est quand même une série à suivre, de même que
Generation Lost, ouais.
voilà, son
Qui est
alternate. Hein. Ouais.
peut-être meilleur à mon sens, mais faut voir, hein, faut voir où va Brightest Day aussi.
Ouais, moi je suis un petit peu en retard sur Brightest Day, Generation Lost, je suis presque à jour. J'ai une semaine de retard, donc.
Ah, et t'as aimé alors ce que t'as vu?
Ah ouais, très très bien. Franchement, c'est vraiment excellent.
Et puis c'est
Vraiment.
drôle.
Oui, en plus.
Quand même.
En plus. Donc voilà, bon, après ces petites news qui ont un petit peu débordé sur le temps prévu, on va passer à la double review. Et donc cette semaine, c'est New Avengers volume 2, numéro 1. Ou devrais-je dire New Avengers numéro 64, je
Ouais,
crois.
voilà, je pense qu'on va dire ça
Je sais
plutôt.
plus quel chiffre c'était le dernier. Donc le scénario est de l'inusable Brian Michael Bendis.
Ah bon?
Les
Surpris.
dessins sont de Stuart Timonen et l'ancrage est de Wade Von Craufbert Badger. J'ai du mal avec son nom. Donc, ben ça commence avec le retour de ce que Bendis essaye de nous imposer et qu'il essaye de faire revivre dans l'univers Marvel, c'est-à-dire la branche mystique de l'univers Marvel avec Doctor Strange qui va rencontrer son ami Hellstrom,
Ouais.
qui finalement n'est pas Hellstrom, il est possédé par une entité venue d'un autre plan et qui a décidé de conquérir le nôtre.
Oui, qui ressemble encore une fois à Dormammu, mais bon, ça doit être autre chose,
Ben voilà, moi
j'espère.
déjà, rien que ça me paraît un peu, enfin, pas du, presque du déjà vu, en fait.
Non, mais voilà, mais c'est clairement du déjà vu. Enfin, c'est ce que je reproche souvent à Bendy, c'est-à-dire que quand les New Avengers sont pas en train d'affronter des ninjas japonais de la main, eh ben, ils sont en train d'affronter les soldats du Oud, et quand ils
Oud
sont pas
qui est
en
quand
train
même
d'affronter
en
ceux du
lien,
Oud.
ouais, Oud qui est quand même en lien, parce qu'il était possédé par Dormammu, quoi.
En plus, oui. Enfin bon, alors quand ils sont pas en train d'affronter les démolisseurs, on va dire, hein, qu'on le voit 36 fois ces derniers mois, eh ben ils sont en train d'affronter des démons avec Doctor Strange, etc. Donc bon, voilà, on commence déjà sur du déjà vu, et en gros, c'est New Avengers, on prend les mêmes, ou presque, et on recommence. D'ailleurs, le scénariste et le dessinateur sont les mêmes.
Ouais. Ben, ensuite, donc, on voit après cette petite intro, on voit Steve Rogers et Iron Man qui sont là et qui parlent avec Luke Cage qui est en colère parce que.
Ah, au fait, c'est la scène qu'on voyait en partie au début d'Avengers aussi. Ça
Oui, c'est
recoupe.
vrai, oui. Oui, c'est vrai.
C'est la fameuse cérémonie où ils sont tous en train de se dire, bon bah alors les équipes c'est quoi? qu'est-ce qu'on fait, et puis t'as Steve Rogers qui dit bon bah vous êtes tous des Avengers à partir de maintenant, et puis voilà, et puis ça se coupait là, et puis après on sautait un passage dans le premier Avengers, et là au fait on revient à ce moment-là et
on voit l'autre côté en fait.
Ouais, on voit l'autre côté, quoi. On voit la constitution des New Avengers qui sont en fait les mêmes à la base.
En fait déjà il demande à Luke Cage qu'il veut, s'il veut vraiment être un Avenger, et moi j'ai trouvé sympa le coup où Stark lui dit si tu veux être un Avenger, file-moi $1. Donc en plus, comme il a pas de fric, c'est Iron Fist qui lui avance. Et quand il lui file $1, il fait voilà, te voilà propriétaire de la Avengers Mansion.
Ouais.
Je sais pas, moi ça m'a fait marrer, quoi. Enfin,
oh, moi,
c'est sympathique.
Ça. Ouais, d'accord.
Ah mais j'ai pas dit que c'était du grand rire non plus. Hein.
Non, ouais, oui.
C'est sympa, je trouve. Voilà. Donc maintenant, Luke Cage est propriétaire de cette Avengers Mansion. Il débarque et il trouve là-bas Victoria End, qui était l'assistante de Norman Osborn, à qui ils ont voulu donner une seconde chance et avoir un petit peu un lien, enfin en tout cas qu'elle soit le lien avec Steve Rogers lui-même.
Ouais, et d'ailleurs, ce qui est assez bizarre, c'est que, donc comme tu dis, elle fait son apparition et elle remet à Cage une lettre signée de Steve Rogers.
Ouais.
Et moi, je me demande si c'est vraiment une lettre signée de Steve Rogers. L'impression que j'ai eue au début, c'est que je me suis dit, ouf, il y a peut-être une entourloupe là-dedans. Et peut-être que c'est pas de Rogers, et peut-être que c'est même, tu vois, les enfin moi au début j'ai cru que c'était les espèces de Dormammu bis ou je sais pas quoi là, qui avaient fait cette fausse lettre.
Ben moi non, je pense que comme il savait que Luke Cage allait sûrement accepter, il avait préparé cette lettre à l'avance, il lui avait dit d'attendre là-bas quoi directement.
Parce que bon, mine de rien, tu vois, Steve Rogers là, il agit un petit peu comme Stark bis, je trouve.
Bah c'est un petit peu pour ça que Luke Cage était en colère, quoi, parce que finalement ça change pas. C'est encore les mêmes qui dirigent un petit peu les Avengers. Donc là, il se retrouve à la tête de l'équipe. Ce qui moi me pose un problème, c'est que Luke Cage, on le voit un peu partout, quoi, maintenant.
Ouais, on le voit un peu partout. On sait que Bendis l'aime bien.
Il est un peu chef d'équipe des Thunderbolts. Il est un petit peu chef d'équipe d'ici. Bon.
Ouais, ça devient un nouveau Wolverine. Enfin, c'est un Wolverine en devenir, on va dire. Parce que. On va le voir un petit peu partout. Alors, ce que j'ai trouvé un petit peu ridicule, moi je ne supporte pas Jessica Jones, comme tu le sais.
Ben, elle est là.
Elle est là. Ce que j'ai surtout trouvé ridicule, c'est toute cette scène avec le bébé où elle dit à propos de Victoria End, tu vois, qu'elle a failli tirer sur le bébé ou qu'elle a pointé une arme sur le bébé. Ouais, mais enfin, moi ce que je trouve ridicule, c'est qu'elle se trimballe avec son bébé partout. Elle est toujours avec les équipes de Vengeurs. Tu peux pas vivre avec des gens comme ça. Et
il craint pour la sécurité, ouais, bien sûr.
Enfin, tu vois, normalement, tu vois, t'as un bébé, tu vis pas cette vie-là qu'elle mène avec. Enfin, tu traînes pas comme ça avec des super-héros à longueur de temps, mais dans les bras, quoi, en même temps.
Est-ce qu'on annonce la composition d'équipe ou est-ce que tu penses que c'est un petit spoiler?
Non, on la voit que sur la couve, donc.
Bon. Alors, donc, on a Luke Cage qui est le chef.
Ouais.
On a Hawkeye et Mockingbird qui sont dans leur propre série Hawkeye et Mockingbird. On a Wolverine et Spider-Man qui dans Avengers et aussi dans leur propre titre et aussi pour Wolverine dans les X-Men.
Oui, bien sûr, mais ça c'est vraiment marketing. T'es d'accord quand même?
Oui, on y viendra après. On a Miss Marvel, on a Iron Fist qui
ben, on a
un transfuge de sa propre série vu qu'elle n'a pas repris.
Oui.
Et on a enfin la grosse surprise, enfin soi-disant puisque c'était éventé déjà depuis très longtemps, The Thing. Alors, la chose des quatre fantastiques.
Déjà, tu remarqueras que sur la composition générale de ces New Avengers, c'est toujours la même équipe. C'est les fameux dissidents de Civil War.
Exactement.
Voilà. Donc c'est toujours plus ou moins la même équipe, sauf qu'il y a quelques nouveaux, notamment The Thing, la chose.
Ouais.
Et alors, franchement, l'explication de Luke Cage, c'est en gros, je te choisis parce que direct, j'ai pensé à ta tête.
Ouais, parce que t'es mon pote.
Voilà.
Et parce que je me suis rappelé dans le passé, on avait fait plein de team-up ensemble et c'était cool.
Ouais, et puis donc il y a l'espèce de petit joke avec Spider-Man ou Wolverine, je crois que c'est Wolverine d'ailleurs qui dit qu'il est dans plein d'équipes en même temps.
Ouais, ça au moins c'est honnête. J'ai trouvé de la part de Bendis.
Bah ouais, non mais enfin bon, c'est une blague qui a déjà été faite 36
ils sont
fois.
Ils sont tous dans d'autres équipes quasiment, à part Iron Fist.
Enfin là c'est même plus de l'honnêteté, ce serait nier l'évidence que de dire que voilà, c'est enfin. Moi je trouvais ça un peu poussif cette arrivée de The Thing, je sais pas trop ce qu'il en fout là et
Bon pour terminer le numéro, il se passe un truc avec Docteur Voodoo, on en parlera peut-être dans les prochains numéros quand on réabordera New Avengers, mais voilà, Docteur Voodoo est en mauvaise posture, en tout cas.
Ouais, et puis on peut quand même dire que Luke Cage est au centre du conflit, ouais. Et Luke Cage est souvent au centre du conflit, puisque...
Là, moi, pour moi, ça va demander une explication, ça, mais...
Oui, non, mais...
Une bonne.
Bon. Ouais, enfin, de toute façon, moi, c'est franchement l'intrigue... Voilà, c'est encore un arc de plus sur New Avengers, si ce n'est que l'équipe est légèrement modifiée.
Moi, le truc que j'ai quand même bien aimé avec ce New Avengers volume 2, c'est que malgré que Avengers soit écrit par Bendis, je trouve qu'il y a un ton vraiment différent dans cette série par rapport à Avengers. Elle est peut-être beaucoup plus légère au niveau du ton. Moins prise. Ouais, enfin, autant Avengers me paraissait très sérieux que là, celui-ci me paraît très léger.
Bah, en fait, Avengers, d'ailleurs, j'ai bien aimé Avengers, j'aime beaucoup. En tout cas pour le moment, c'est-à-dire que ça a une espèce de côté ancien, tu vois, ancien Avengers, ils affrontent Kang, donc
oui,
déjà
voilà.
On repart vraiment au. Enfin, tu vois, au vrai Avengers, quoi. Tandis que là, c'est toujours les New Avengers à la sauce Bendis, quoi.
C'est clair que pour moi, le relaunch, à part pour dire c'est Heroic Age et il faut en vendre un peu plus, voilà. Je vois pas l'intérêt de faire un relaunch, quoi.
Sur cette série,
Si, à part qu'ils auront les mêmes chiffres. Et même pas, puisqu'en fait, celui-là est du mois de juin, il y aura toujours un numéro d'écart.
Ouais, il y aura un numéro d'écart, et puis... Non, enfin, franchement, là, sur les séries Avengers, mes deux préférés, pour le moment, c'est Avengers Academy, en première position, et puis en seconde position, je dirais Avengers de Bendis.
Malgré toutes les critiques que j'en ai faites, moi, j'ai plutôt bien apprécié ce New Avengers volume 2. C'est vrai que, comme je disais, ça n'a pas changé. On a l'impression de lire la suite de New Avengers et que, on est revenu au numéro 1 pour rien. Mais j'ai plutôt bien apprécié l'ambiance générale. Donc, bon. Moi, j'irai voir le numéro 2 pour voir ce que ça donne.
Ah, moi, pas. Moi, ça m'a tellement pas intéressé que je pense que j'attendrai les parutions françaises pour savoir ce qu'il en est.
Ou peut-être le prochain arc, ou voire même le crossover entre Avengers et New Avengers.
Peut-être, oui, effectivement.
Parce que nul doute qu'il va y en avoir.
Ouais. Éventuellement les prochains arcs, quoi, effectivement. Mais sur cet arc-là, en tout cas, que je lise la suite ou pas, je suis pas plus intéressé que ça.
À noter qu'on avait la suite aussi de l'espèce de petit roman qu'on avait eu dans Avengers numéro 1, qui présente l'équipe et qui revient sur le début. Là, cette fois-ci, j'ai pas eu le temps de le lire, donc je sais pas si ça continue bien ou pas. Mais bon, voilà, c'est bien dedans, comme c'était prévu. Alors, je sais pas, par contre, si ça continuera dans les prochains numéros ou pas. Je sais pas si tu l'as lu, toi.
Oui. Non, je les ai pas lus, non. D'accord. Mais je les avais pas lus précédemment non plus, donc je suis resté sur ma ligne de conduite.
Ok. Est-ce un bail, un check-it ou un pass pour toi?
Ah bah, si on a lu et qu'on apprécie les New Avengers, c'est un bail. Sinon, pour ceux qui s'en foutent des New Avengers et qui n'accrochaient plus à ce titre précédemment, c'est le même, donc c'est un pass.
Ok. Ah, pour moi, c'est soit un bail, puisque de toute façon c'est un premier numéro, donc ça permet de voir un petit peu ce que ça va donner. Soit un check-it si on avait tendance à suivre un petit peu et qu'on est intéressé par le monde Avengers, voilà. Mais pour moi, c'est plus un bail quand même.
D'accord. Voilà.
Hormis le fait que tous les personnages sont dans d'autres équipes et qu'on se demande comment ils vont avoir le temps tous de se retrouver. D'ailleurs, peut-être même que c'est une intrigue en devenir et que le casting va changer puisqu'ils n'auront jamais le temps d'être tous ensemble. On verra bien. On verra bien.
On verra bien, et puis surtout on verra si Bendis parvient à tenir la cadence avec ses deux séries Avengers par mois, plus ses autres projets.
Oui, ouais, c'est clair. On passe maintenant au review solo. Cette semaine, c'est moi qui commence avec Birds of Prey volume 2, numéro 2. Le scénario de Gail Simon, les dessins sont d'Ed Benes et d'Adriana Mello. Ancrage par Ed Benes et Maria Benes. Deuxième partie d'un arc qui s'appelle End Run. Le titre, c'est Rage of the White Canary. Et donc le personnage qu'on avait vu à la fin du 1 qui commençait à coller une bonne branlée à comment elle s'appelle, Black Canary et à Huntress, vu qu'elle n'a toujours pas de nom, je vais l'appeler White Canary, puisqu'apparemment c'est le titre, et c'est sûrement le nom qu'elle a.
D'accord.
Donc voilà, à défaut d'autres noms, je vais utiliser celui-ci. Donc, elle continue de... Donc cette White Canary continue de mettre une bonne branlée à Black Canary et à Huntress. Se joignent à la bataille les nouveaux membres, les nouveaux membres, anciens, nouveaux si on veut, mais... De Birds of Prey, donc Hawk et Dove, et puis Lady Black Hawk, et ça change pas grand chose.
Okay.
En fait, le tout était un gros piège, est révélé en même temps à la télé ce que Oracle se rend compte, puisqu'elle surveille comme toujours tout ce qui est internet, télévision et tout en même temps,
Ouais.
que la personne que Black Canary avait attaqué dans le premier épisode pour sauver la petite gamine est mort de ses blessures. Et donc Black Canary est accusé de meurtre. Donc la police arrive sur les lieux du combat pour l'arrêter. Et donc on sent bien que c'est un gros piège puisque tout était préparé à l'avance.
Ouais.
White Canary s'échappe et finalement les Birds of Prey décident de ne pas se rendre et de devenir des hors-la-loi.
D'accord, donc ça prend un virage total la série.
Total, ah ouais, complètement. Ils deviennent vraiment des hors-la-loi. Chose encore plus importante. Alors là, je vais faire un petit spoiler. Donc, si jamais vous voulez le lire et que vous voulez pas le savoir, je vous conseille d'avancer jusqu'à la prochaine review. Sinon, bah, vous êtes prévenus. Ce qui est révélé aussi aux informations, c'est la véritable identité de Black Canary. Donc, toute sa vie est totalement révélée, quoi. Et donc, là, elle est devenue non seulement hors la loi, mais en plus, elle n'a plus d'identité secrète.
Ok, d'accord.
Donc, voilà. Donc, elle est vraiment dans un gros pétrin.
Ok, donc là, ça devient vraiment une équipe de hors-la-loi, un petit peu malgré elle, quoi.
Et comme White Canary le répète à la dernière minute, avant de s'échapper, il va falloir qu'il y en ait un qui meure toutes les heures, et ce, pendant 6 heures, donc éliminer tous les membres de l'équipe. Sinon, bah, c'est elle qui s'en chargera avec perte et fracas. Et donc, bah, on a vu ce qu'elle a fait déjà à Black Canary, à voir ce qui va se passer pour les autres. En tout cas, je sais pas, c'est intéressant. Le problème, c'est qu'on sait déjà que c'est en 4 parties, donc ça va pas être un personnage qui décanille par numéro. On verra où ça va. En tout cas, je suis assez intéressé. La série a vraiment changé de ton radicalement. Elle est beaucoup plus sombre.
De toute façon, c'était le numéro 2 donc d'un relaunch. Hein.
Oui, c'est le numéro 2 d'un relaunch, oui, avec le retour de Gail Simone sur le titre, qui avait quitté à peu près, je crois, au numéro 108. Avant.
D'accord.
Alors qu'elle avait pris au numéro 20 peut-être, ou 30, quelque chose comme ça. Donc elle avait vraiment écrit l'équipe pendant très longtemps. Et là, elle est de retour.
Donc un bail, là, c'est le moment d'y aller, quoi, sur cette...
Moi, en tout cas, ça m'a vraiment plu. Alors, faut aimer Black Canary, faut aimer Oracle, enfin, faut aimer tous ces personnages-là, quoi. C'est vrai que si on n'aime pas, c'est même pas la peine, ça va pas nous intéresser. Mais si les personnages, on les aime bien, ouais, pour moi, c'est un bail. En tout cas, c'est pour le moment intéressant.
Ok.
Voilà.
On passe à Marvel ?
Ouais.
Alors, moi, je vous ai pris Amazing Spider-Man 634... Donc le scénario est de Joey Kelly et on retrouve Michael Lark et Stefano Goggiano au dessin. Second numéro de Amazing Spider-Man de la semaine puisque le 633 est sorti le même jour. Donc fallait en acheter deux et fallait surtout lire le 633 avant le 634, évidemment.
Ça paraît logique, mais des fois on sait jamais. Hein.
Oui, non, mais enfin, surtout on peut louper, on peut pas faire gaffe et prendre juste le 634 dans les étalages en voyant que c'est le dernier sorti et au fait les deux sont sortis le même jour. Donc
c'est
voilà.
Vrai
donc
qu'on avait eu à l'époque un spawn écrit par Todd McFarlane. Je crois que c'était le numéro 21 et 22 qui avait zappé. Ils étaient sortis 5-6 mois plus tard. Bon, c'était pas trop trop grave, mais quand même.
Oui,
ça fait désordre.
Ça fait bizarre, oui. Ça fait bizarre sur les étalages. On comprend pas trop. Donc là, deux numéros. Donc rapidement, le 633, au fait, c'était la fin d'un arc avec le lézard. Et c'était au fait ce qui clôturait un petit peu toute cette partie Gauntlet. Et ça débouche sur ce numéro 634, qui est la première partie de The Grim Hunt. Et The Grim Hunt, on l'a vu sur les reviews, annonçait plus ou moins peut-être le retour de Kraven. Donc est-ce que Kraven va ressusciter ? En tout cas, ça commence sur Peter Parker qui est chez lui, alors qui est complètement déprimé parce qu'il a eu plusieurs soucis auparavant dans les numéros précédents, mais comme d'habitude, quoi. Et vient frapper à sa porte Kane.
Oh oh.
Kane qui est à l'article de la mort, qui est couvert de sang. Et Kane qui visiblement s'est fait attaquer par la fille de Kraven et le frère aussi. Ils ont sorti le frère, le fils, enfin le.
Ouais.
Voilà.
Je me rappelle plus son nom d'ailleurs.
Alyosha.
Non, enfin son nom, parce qu'il avait pas pris le nom de Kraven, je crois qu'il avait pris un autre nom.
Ah bah alors il y avait The Grim Hunter qui était Vladimir Kravinov qui est mort durant la saga du clone, tué par Ken justement.
C'était peut-être à lui que je pensais justement.
Et voilà, et ensuite après la saga du clone, on a eu le second fils Alyosha qui est de retour là avec la fille. Donc bon, c'est donc avec sa sœur. Ce qui est assez compliqué. là, c'est une famille nombreuse, enfin voilà. Bon. Et donc Spider-Man se rend compte que c'est la famille Kraven est depuis quelques mois à la poursuite de tous les personnages ayant un rapport avec les araignées. Donc là par exemple, Spider-Man vient en aide à la seconde Spider-Woman, Jessica Carpenter, je crois qu'elle s'appelle.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et donc Spider-Man lui vient en aide, ils arrivent à s'échapper de la famille Kraven, mais on retrouve plus tard dans l'épisode la famille Kraven qui font une espèce de rituel, un espèce de sacrifice qui rappelle un petit peu certains épisodes de GMS, enfin de Straczynski sur Spider-Man, un espèce de sacrifice visant à ressusciter le second frère, donc celui qui est mort durant la saga du clone, le fameux Vladimir Kravinov. Alors, est-ce que le sacrifice va fonctionner ? C'est ce qu'on voit à la fin de l'épisode, avec une espèce de résurrection. Alors, je te dis pas s'il ressuscite ou si ça fonctionne comme il le voudrait, mais voilà. Et donc, le sacrifice, d'ailleurs, qui est le sacrifice de la troisième Spider-Woman. Alors, je sais pas si tu te souviens d'elle, on la voyait durant le relaunch de John Byrne.
J'ai pas lu ça.
Ouais, c'était, je crois, la cousine de Jameson. Enfin, je sais pas, elle avait un lien avec Jonah Jameson. Et donc là, elle a été enlevée, il y a de cela quelques épisodes, par la famille Kraven, qui l'a sacrifiée à la fin de l'épisode pour ressusciter le fils de Kraven. Et ils disent d'ailleurs que pour ressusciter Kraven une fois pour toutes, eh ben, il va falloir qu'ils aient le sang du vrai Spider-Man. Bon alors, le scénario, il se passe vraiment pas mal de choses hein, dans cet épisode, mais ça fait appel aussi à pas mal de continuité des épisodes donc de Straczynski, et il y a notamment la réapparition, hors Miken, d'un personnage qui a marqué le run de Straczynski, donc je vais pas dire qui. Donc vraiment, il y a de grosses surprises quand même dans cet épisode. Je dirais que c'est un bail, franchement, ouais. Parce que ça pourrait être très intéressant cet arc-là. Alors ma seule crainte, c'est que je me doute quand même que il y a peu de chances que Kraven ressuscite hein, quand même. Je pense pas qu'ils vont aller jusque là et de toute façon, s'ils doivent sacrifier Spider-Man pour ressusciter Kraven, on sait déjà que la réponse sera bah que non, ils vont pas réussir à mon avis.
Quoi que s'il faut juste son sang, ils peuvent lui faire une transfusion. Bah,
là, en tout cas, le sacrifice qu'on voit, c'est ils éventrent totalement la pauvre troisième Spider-Woman pour ressusciter déjà le fils.
Ou alors en utilisant un clone.
Ouais, mais il faut l'original apparemment, donc voilà. En tout cas, voilà, donc ça rapporte des points qu'on a vus dans le run de Straczynski à propos de tout ce qui était totem, tout ce qui était le côté mystique de l'araignée avec le chasseur et la proie, etc. Et puis en même temps, ça ressemblait un petit peu à ce qu'on avait vu dans la dernière chasse de Kraven par J.M. DeMatteis. Donc c'est un espèce de mélange de tout ça.
Ça a l'air vraiment plutôt pas mal en tout cas.
Ouais, en tout cas c'est pas mal. En puis bon, c'est vraiment le début des choses sérieuses, on va dire, avec cette première partie. Donc c'est vraiment un arc à prendre, à mon avis.
On va enchaîner les bons arcs. Hein.
Juste, faut préciser qu'il y a une espèce de petit épisode de J.M. DeMatteis et de Max Fiumara de quelques pages, donc qui était sorti en digital aussi, je crois. Avec Kraven, et au fait ça nous montre une rencontre qui a eu lieu il y a des années entre Kraven et Kane. C'est la première partie, la suite ce sera dans le prochain épisode, dans le prochain numéro d'Amazing.
D'accord.
Et on termine avec deux pages de Stan Lee et Marcos Martin. Alors là, un truc très étrange qui sera en 12 parties, mais en 12 parties de deux pages à chaque fois, donc ce sera sur, à mon avis, 12 numéros d'Amazing, où il y a une sorte de Minus et Cortex qui crée une machine. En fait, on les voit pas, les types, mais ils ressemblent à Minus et Cortex. Et qu'est-ce qu'ils font ce soir-là ? Eh ben, ils créent une machine pour rentrer dans le monde des comics Spider-Man.
D'accord.
Et au dernier moment, il y a des flics qui arrivent dans leur espèce de base. Et au moment où les flics vont pénétrer dans leur base, eh ben, eux, ils rentrent dans leur machine et apparemment, ils vont être téléportés dans le monde de Spider-Man. Enfin, dans le monde des comics Spider-Man. C'est complètement délirant, je sais pas ce que c'est que ce truc. C'est par Stan Lee, donc, ce sera en 12 parties de 2 pages à chaque fois.
Qui nous écrit que des trucs bizarres quand même depuis un bon moment.
Nous écrit des trucs bizarres, mais alors c'est censé être une espèce de, tu sais, de BD qu'on retrouve dans tous les numéros du Frontline, en fait.
D'accord.
Voilà. Donc vraiment un numéro assez sympa, ça fait du bien parce que c'était un peu ronflant le Gauntlet depuis quelques mois, il se passait pas grand chose. Et là voilà, donc un arc intéressant, Grim Hunt, à suivre dans les prochaines semaines.
Très bien. Donc avec entre ça plus après One Moment in Time et enfin le.
Bah faudra voir One Moment in Time. J'ai un petit peu peur, mais ça en
l'arc
tout cas,
de Mark Waid, ça risque de bouger pas mal dans les prochains mois en tout cas. Dans
ça risque d'être pas mal, ouais. Ça risque d'être pas mal. Bon, avec une petite
réserve. En tout cas, il y aura des changements, ça c'est sûr.
Probable ou pas, ouais. Mais enfin de toute façon, en tout cas là, la première partie est vraiment sympa, donc à lire, un bail.
Ok, très bien. On retourne chez DC avec cette fois-ci un comic un peu plus pour les jeunes, très jeunes. Tiny Titans numéro 29, écrit par Art Balthazar et Franco, enfin écrit et dessiné en fait. Donc je disais que c'est pour les jeunes et en même temps pour aussi les vieux aficionados du comics, puisque rien que déjà la couverture est un pastiche de Crisis on Infinite Earth numéro 7. Mm-hmm. Avec cette fois-ci Supergirl qui tient quelqu'un dans ses bras et non Superman qui tient Supergirl. Avec comme titre écrit Crisis... attends, que je le retrouve sur ma fiche. Voilà, Crisis of Infinite Toddlers.
D'accord.
Donc l'histoire est simple. Supergirl est désignée par les autres Titans pour faire du babysitting et s'occuper des très jeunes Tiny Titans.
D'accord, ok. Donc c'est un petit peu les Razmoquettes... Version Titans, quoi.
Ouais, enfin, c'est vraiment du strip, en fait, donc...
Oui, ça fait penser les dessins à ce que fait un petit peu Schultz.
Ouais, un petit peu, ouais, c'est dans cet esprit-là, en fait. C'est vraiment pour un jeune public, mais en même temps, comme je disais, tous les gens qui ont lu beaucoup de Teen Titans, beaucoup de DC, etc., verront toutes les références que les gamins ne verront pas. Par exemple, donc, elle doit s'occuper de toute l'équipe des Tiny Terror Titans. Voilà, il y a aussi Miss Martian, Jericho, Wild Beast, Kid Devil, et on a aussi Jason Todd et Tim Drake qui sont là dont elle doit s'occuper. Et ça, d'ailleurs, il y a une scène avec Robin qui voit justement Jason et Tim et qui pète un peu les plombs parce qu'ils n'arrêtent pas de lui piquer son costume puisqu'il s'habille en Robin aussi. Enfin, voilà, c'est plein de trucs. Mais ils sont jamais nommés. Enfin, ils sont juste nommés Jason et Tim. Donc si on ne sait pas qui sont Jason Todd et Tim Drake, on verra pas forcément la référence. On va aller voir s'habiller en Robin sans forcément comprendre. Mais bon, pour ceux qui savent, voilà, c'est franchement très drôle. Moi, ça m'a fait vraiment éclater de rire à pas mal de moments. Ensuite, elle a du mal un petit peu à gérer tous ses gamins et elle est aidée par Beast Boy et Zatara. Enfin, voilà. Bon, c'est du grand guignol, vraiment. C'est drôle.
Oui, c'est pour passer un bon moment.
Ouais, ça se lit en 5 minutes, c'est vrai. C'est peut-être le problème, c'est que ça se lit un peu trop vite. Il y a pas assez de
pages. C'est pour tous, quoi. De toute façon, on peut lire même
c'est pour tous.
Tout petit,
Ah ouais, non, vraiment. C'est vraiment fait pour un public d'enfants. De toute façon, c'est dans la ligne enfant de chez DC. Mais vraiment, pour les plus grands, c'est vraiment aussi drôle parce qu'il y a plein de références.
Voilà, d'accord, ok. Voilà. Donc, ouais,
moi, franchement,
pas forcément saisi par le jeune public.
Pour moi, pour ceux qui aiment vraiment DC et qui ont envie de passer un bon petit moment sympa, c'est un bail, sinon c'est un check-it, parce que pour moi ça vaut vraiment le coup.
Bon, en tout cas, c'est une curiosité, quoi.
Ouais, voilà. Tiny Titans, j'en lis de temps en temps, pas tous les mois quand même, mais c'est vrai qu'à chaque fois, ça m'a toujours fait marrer, et là, celui-ci m'a vraiment fait rigoler, donc voilà, c'est vraiment sympa. Voilà, c'est tout pour moi.
Eh bien, on termine sur du Image, avec Savage Dragon 161. Alors Savage Dragon, j'en ai lu très peu, hein, puisque j'ai lu surtout ce qui est sorti chez Delcourt tout récemment, c'est-à-dire le tout début. Ouais. Et là je me suis dit, bon tiens, j'ai vu sur l'étalage Savage Dragon affronter le Daredevil du Golden Age, celui des années 40-50 qui est tombé dans le domaine public, qu'on a vu dans Project Superpowers.
Exactement.
Donc je me suis dit, tiens, ça pourrait être marrant. Et puis en plus c'est un one-shot qui fait suite au gros arc War of the Savage Dragon, je crois. C'était War of the Dragons, tout simplement.
War of the Dragons.
Et au fait, donc c'est une espèce d'épisode où ça prend directement la suite. Et au fait, ce qui s'est passé donc récemment, c'est que le Savage Dragon s'est rappelé de ses origines. Tout lui est revenu en mémoire. Donc il est une espèce de. À la base, c'est une espèce d'extraterrestre, une espèce de conquérant qui s'appelle Cœur le Conquérant, je crois.
Ça doit être ça, ouais. Je me rappelle plus de son nom.
Ouais, et donc là, tout lui est revenu en mémoire, donc du coup, il est reparti sur ses anciennes. Enfin, sur ses anciens désirs de conquête. Bah du coup, voilà quoi, le Savage Dragon, c'est plus le gentil flic, c'est plus le gentil héros, c'est devenu le gros super vilain dans sa série, quoi. Depuis le dernier arc. et ses enfants, puisque il a des enfants, Savage Dragon, entre temps, en 160 numéros, il a eu le temps de pondre des gamins. Et ben là, ses enfants essayent de retrouver la trace de leur père et surtout de lui faire entendre raison. Va y avoir une rencontre entre Savage Dragon et le fameux Daredevil des années, enfin du Golden Age, quoi.
Ouais, mais il est déjà passé de toute façon dans la série hein, depuis un petit
moment. Oui, il est déjà passé, mais là en tout cas, il y a une espèce de baston à la fin entre les deux qui tourne plutôt mal, quoi. Les deux combattants sont plutôt mal en point, donc je ne sais pas. D'ailleurs, je ne sais même pas si le Daredevil y survit, en fait. Donc à voir prochainement. Que dire de plus, de toute façon, voilà quoi, c'est du Savage Dragon, c'est toujours assez sympa. Alors Eric Larson a beaucoup changé son style depuis les premiers, hein, pour ceux qui comme moi n'ont lu que les premiers Savage Dragon, c'est vrai que ça fait un choc quand même quand on commence.
Ben, il a vraiment calque de plus en plus son style sur du Kirby en fait.
Ouais, c'est du Kirby, mais c'est aussi bien plus enfantin, mais sans que ce soit péjoratif, tu vois.
Oui,
mais
oui bien sûr, ouais.
C'est les gens ont vraiment des têtes de gamins. Faut dire qu'on voit pas mal aussi les enfants de Savage Dragon, donc c'est normal. Son fils, c'est vraiment Savage Dragon version
jeune.
Version. Ouais, voilà quoi, version jeune jeune basketteur quoi, tu vois, c'est dans le style bon. Donc forcément voilà donc. Mais bon, c'est toujours sympa. Franchement, moi, ça m'a intéressé. J'ai envie de m'y remettre. Peut-être que je vais me prendre les trade paperback récents, en fait, des arcs récents aux États-Unis, puisque, en fait, vu qu'on en est vraiment tout au début en français, je pense qu'on n'aura pas ça avant très 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 longtemps.
Bah déjà, à savoir si Savage Dragon s'est bien vendu chez Delcourt, et ça, on ne sait pas. Donc.
Ouais, voilà aussi. Bah j'espère, parce que enfin.
Parce que si c'est bien vendu, il y aura la suite. Si c'est mal vendu, il se peut qu'ils arrêtent.
Il y a des chances parce que je n'en vois plus en tout cas dans mes dans les comic shops que je fréquente, j'en vois plus sur les étalages donc. Il y a des chances que ce soit bien vendu. Mais bon, enfin, j'espère voilà qu'on aura la suite très vite et surtout qu'ils mettront un maximum d'épisodes dans les bouquins, quoi.
Ouais, et puis qu'ils nous mettent pas des mini-séries qui servent à rien. Est-ce que,
ouais, voilà. Parce que là, ouais. C'est vrai que Blood and Guts, par exemple, pour le premier volume, c'était pas forcément très utile.
Non, mais ouais, qu'ils nous mettent du vrai dragon, quoi. Autre chose que le peu qu'on a eu, parce que là, c'était quand même... Voilà, on nous présente un personnage que certains n'avaient pas découvert à l'époque où c'était sorti chez Semic. Un personnage qui quand même maintenant plus de 15 ans d'existence, pas loin de 20 ans même. Bon, nous mettre si peu d'épisodes et puis des épisodes qui ne sont pas forcément judicieux comme le Zéro qui nous présente les origines ou la mini-série Blood and Guts qui n'apporte absolument rien au personnage quand on ne le connaît pas et puis même qui n'apporte rien tout court même quand on le connaît. Bon, voilà. C'est pas ce qu'il y a de fait de mieux quoi.
Voilà. Bon, mais en tout cas, déjà c'était bien de ressortir quand même cette série enfin en français
ouais, bien sûr.
Dans une édition comme celle-là puisque en plus
mais sinon pour ceux qui veulent se les procurer, il existe les TPB américains, il existe aussi des... Alors, je sais plus comment il appelle ça... Des compédiums, je crois, que ça s'appelle chez Image, qui reprennent... alors, de mémoire, je crois que c'est une cinquantaine d'épisodes, ou peut-être un peu moins, ou peut-être 25 épisodes, mais en noir et blanc. Un peu oui. Le format Essential chez Marvel, qui oui. Sont disponibles pour pas excessivement cher, honnêtement. J'ai plus les prix en tête, mais je crois, de mémoire, que ça doit être aux alentours de 30-35 dollars, quelque chose comme ça. Si on veut se faire un max d'épisodes pour pas trop cher, bon par contre faut aimer la version noir et blanc.
Voilà, ça, c'est un petit peu dommage de perdre la couleur.
Mais sinon après il existe des hardcovers, des absolute editions, enfin voilà, il en existe plein et il y a moyen de se les procurer.
Bon en tout cas, que dire ? Bah si vous avez jamais commencé Savage Dragon, vous allez être perdu pour cette.
J'imagine, oui.
Si vous avez lu les premiers en français, c'est peut-être aussi un peu juste. Bon, alors, un bail pour les fans du dragon. Peut-être juste un check-it, mais alors un check-it qui s'accompagnerait de l'achat d'un des récents TPB en anglais, quoi, puisque ce qui s'est passé ces derniers mois, c'était quand même vachement important.
Bah, Dragon War venant juste de finir, je suis pas sûr que le TPB soit déjà disponible.
Non, le TPB n'est pas encore dispo. Les deux derniers qui sont sortis, bah, c'est ceux correspondant aux deux arcs précédents, quoi. On peut peut-être commencer par là, puisque voilà.
Bah, à partir du moment où il avait fait un jumping point, à partir du moment où il avait décidé que sa série deviendrait en temps réel, c'est je crois aux alentours du 100, 40 peut-être, quelque chose comme ça.
Je sais qu'il y avait l'arc Back in Blue, je crois qu'il marquait une espèce
Ouais,
de...
bah ça par exemple c'est un très bon jumping point.
Voilà. Bon, bah à partir de l'arc Back in Blue, je crois que vous avez deux TPB avant War of the Dragons qui sortira bientôt. Et ensuite, bah voilà, ça reprend à cet épisode-là que je viens de chroniquer. Et c'est vraiment une série sympa, donc bah voilà, à découvrir Savage Dragon, et puis voilà, que dire d'autre?
Bah, que c'est la fin de notre cinquième émission.
Oui.
Qu'on se retrouve la semaine prochaine. Pas de mail cette semaine.
Non, pas de mail, effectivement. Et puis, on espère qu'on aura un peu moins de soucis que cette semaine, puisque ça a été difficile.
Difficile à enregistrer.
La machine à DD, la machine à déplacement direct,
Non.
était pas fiable, hein, cette semaine. Hein. Nous a fait un petit peu faux bond.
Une gentille coupure internet voilà, de plusieurs heures, donc ça y est un petit peu les problèmes.
Une coupure internet, mais Steve, mais enfin, la machine à déplacement direct, mais on va aux États-Unis avec.
Ouais, mais sans internet, pas d'États-Unis.
C'est vrai.
Donc voilà, bon, une émission qui a encore un petit peu débordé sur le temps, on est à peu près aux alentours de 45 minutes, quelque chose comme ça. Donc
La
voilà.
prochaine fois, on fera 2 heures.
Ouais. Oui, mais oui, c'est moi qui monte après. Ça va être difficile. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la semaine prochaine de comics, tout simplement. Il faudrait que je pense vraiment à trouver une formule qui évite de répéter deux fois semaine prochaine dans la même phrase.
Bah, même bat chaîne, même bat heure, hein, comme il disait à l'époque.
Et puis bah voilà quoi, vous nous retrouvez sur Facebook, sur le site bien sûr, vous pouvez nous laisser des commentaires, nous envoyer des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr, nous retrouver aussi sur Facebook, je crois que je l'ai déjà dit, sur Twitter et sur iTunes. Voilà, c'est tout pour cette semaine, à la semaine prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.
Ciao, ciao!